Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui est ce qu'on appelle une femme qui n'aime pas la zone de confort. Elle a bien raison. Pourquoi succomber au confort d'un environnement professionnel sécurisant lorsqu'on peut se lancer soi-même, monter son business et le faire prospérer? Aujourd'hui, 11 ans après sa prise de risque, ma femme est à la tête d'un petit empire qu'elle compte bien faire croître en famille cette fois-ci. Elle nous raconte des détails de cette belle expérience personnelle.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Rita Schreibi, bonjour, comment ça va? Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui.
Bonjour Yasmine, ben merci de m'avoir invitée.
Alors vous, vous êtes installée à Dubaï depuis combien de temps, Rita?
Ça fait déjà 11 ans.
Ah quand même, c'est vraiment chez vous là-bas maintenant.
Oui, oui, et ben, entre le Maroc et ici, tout à fait.
C'est ça. Alors Rita, vous, vous êtes une créatrice de bijoux. Moi j'ai toujours eu l'impression que c'était un monde masculin finalement, même si les bijoux sont surtout féminins, mais ceux qui les créent c'est surtout des hommes à travers l'histoire, et puis même les grands noms de la joaillerie internationale, derrière se cachent souvent des hommes. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, en tant que jeune femme marocaine, à vous intéresser à ce domaine?
C'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui reste très masculin et qui reste souvent aussi, en général, de père en fils.
Oui.
On ne voit pas beaucoup de nouvelles marques pop-up en fait, dans ce domaine, et surtout pas menées par des femmes. Donc moi, ça m'a... j'ai toujours été d'abord toujours très intéressée par la création d'entreprise, en premier. Ça a toujours été ma passion de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, lié aux bijoux, c'était doublement ma passion. Donc, quand je me suis installée à Dubaï à 11 ans, j'étais pas dans ce domaine initialement, je travaillais chez Google. J'ai vraiment voulu me lancer parce que je me disais, il manque des choses, je le vois, je le sens en tant que consommatrice, en tant que femme. D'ailleurs, je m'étais mariée juste avant d'arriver à Dubaï et j'étais passée par l'expérience de recherche de bijoux à mon goût et j'avais trouvé ça extrêmement frustrant parce que je ne trouvais pas des choses qui me plaisaient, des choses dans mon budget, et je trouvais que c'était justement une industrie qui était trop concentrée autour des grandes marques ou de marques un peu qui se partageaient ce domaine sans être vraiment dans l'innovation, dans des choses à l'écoute du consommateur. Donc ça m'a vraiment donné envie de changer un peu les choses.
Donc vous n'avez pas grandi dans ce milieu?
Pas du tout.
Vous connaissez pas le circuit?
Du tout. C'était vraiment un jump, en fait.
Total.
Total.
Alors, Bletty, on va y aller petit à petit. Google, j'imagine, quand on bosse pour Google, c'est une certaine sécurité quand même. C'est ce qui nous communique aussi. Hein. Maintenant, corrigez-moi si je me trompe. C'est aussi une certaine qualité de travail, un environnement de travail agréable. D'abord, est-ce que c'est vrai? On check avec vous. Est-ce que c'est vrai?
C'est tout à fait vrai. C'était vraiment un super environnement de travail. C'était pas évident de le lâcher, en fait.
C'est ça.
Ouais, bien sûr.
Alors.
C'est fidèle à la réputation de Google, je confirme.
Donc, c'est pas que du marketing et de la com, c'est intramuros, vous l'avez vécu.
Oui. C'était des massages toutes les semaines, c'était des nap rooms dans le bureau, donc on pouvait aller s'allonger un petit moment. C'était un service de catering. H24, c'était une équipe de travail très très talentueuse et très intéressante, donc c'était vraiment un environnement très épanouissant.
Alors j'ouvre quand même une parenthèse, quand on travaille dans un environnement pareil, est-ce que par exemple vous avez remarqué des débordements? Quand on met à disposition du collaborateur ce genre de choses, le nap room, le catering toute la journée, les massages, est-ce qu'il y a de l'excès dans ça? Est-ce que les gens abusent?
Écoutez, vous savez, c'est un système qui est très intéressant à observer, parce que en réalité, on peut remarquer des tout petits abus, des gens qui vont peut-être un peu traîner en journée, peut-être plutôt travailler chez eux plutôt que de venir, mais ils sont très smart, Google, dans leur manière d'avoir géré les choses, parce qu'il y a des KPIs, en fait. Tous les gens sont contrôlés par les résultats.
Et en fait,
tant qu'on a des bons résultats, ils ne vous parlent pas. Vous faites ce que vous voulez. Et finalement, c'est très, très intelligent comme manière de travailler. Parce qu'au lieu de brimer les gens avec des horaires de travail H24, il y a une certaine liberté. Et finalement, les gens sont quand même très contrôlés par par en fait une exigence de compétences et de résultats. Donc finalement, on peut peut-être traîner, arriver au travail le matin ou faire une nappe quand on veut, mais il faut rester réveillé tard pour finir ce qu'il y a à finir.
Ce qu'il y a à finir, c'est ça.
Finalement, c'est performant.
Ouais. Parce que pourquoi je vous posais la question ? Parce que par exemple, certains pourraient nous entendre et dire oui, ben très bien, parce que malheureusement, parfois, on a tendance à dénigrer notre environnement. Je dis bien malheureusement. Et oui, il a dit il home nap room, une salle de sieste, radim chinois ou marinage.
Je pense que c'est des raisonnements à l'ancienne, mais il faut que ce soit un système efficace à 360. C'est-à-dire, il faut avoir réfléchi à tous les aspects. Si on met une nap room en place, il faut bien mettre ses KPIs en place et bien recruter. Donc, les gens qui sont recrutés en général chez Google ne sont pas n'importe qui. Donc, en général, ça va avec. Okay. Et voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être étendu à pas mal de personnes. Il suffit d'avoir la mentalité qu'il faut. D'ailleurs, quand on est recruté chez Google, c'est souvent, il faut avoir la mentalité Google. C'est le premier truc qu'on check quand on fait les entretiens, etc. Donc, oui, je pense que c'est un système à mettre en place, mais qui est complètement reproductible ailleurs.
Bon, on n'est pas là pour parler de RH, sinon j'aurais posé la question. C'est quoi l'état d'esprit Google ? Mais bon, on fera ça une autre fois. Revenons justement à votre projet. Un jour, ça s'est fait sur un coup de tête ou ça a été compliqué de lâcher ce poste chez Google ?
Non. C'est un projet que j'ai mûri. Donc, quand j'étais chez Google pendant 2 ans et demi, j'ai fait des études de gémologie en parallèle.
Ok.
Pour un peu plonger, mais plonger correctement, parce que voilà, mon background ne me permettait pas de faire les choses n'importe comment.
La gémologie, c'est la science de
des gemmes, donc des pierres. En fait.
Des pierres, absolument.
J'ai fait des études de gémologie pour vraiment mieux comprendre les choses. Et quand je me suis sentie à l'aise de me lancer, j'ai quitté pour me concentrer sur mon projet, qui était le lancement de Taj à l'époque.
Alors, j'imagine que quand on veut se lancer dans la joaillerie, il faut avoir des circuits, il faut savoir bien choisir les pierres, il faut savoir bien négocier. Et ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment un monde assez fermé. C'est souvent une formation qui se transmet de père en fils. D'abord, c'est un monde masculin assez fermé, avec une transmission orale et visuelle. Comment vous êtes retrouvée, vous, petite brindille que vous êtes, dans ce monde, et comment vous en êtes sortie ?
Bah écoutez, c'est franchement, même quand moi-même je me pose la question, je me demande comment j'ai fait. Mais il y a eu des périodes difficiles au démarrage, mais tout a fini par prendre place, en fait. Donc, quand je me suis lancée là-dedans, il est vrai que le fait d'avoir été à Dubaï a beaucoup aidé. Parce que quand on évolue dans un environnement parisien ou marocain ou autre, on a un peu de mal à imaginer comment rentrer dans ce domaine. On peut s'y intéresser, mais c'est un monde très fermé. En fait, on ne sait pas comment ça se passe, comment les bijoux sont fabriqués, d'où est-ce qu'on récupère les pierres, quel est le process.
Oui, absolument.
Dubaï, c'est un peu différent parce que c'est vraiment comme une entreprise géante, en fait. On a des tas d'ateliers qui ont leurs portes ouvertes, on peut faire des choses. Donc, au début, en fait, c'était vraiment en tâtonnant, en contactant plusieurs ateliers, en voyant comment ils pouvaient fabriquer une pièce ici, une pièce là. Et petit à petit, c'est devenu beaucoup plus sérieux. C'était travailler avec, sélectionner quelques ateliers partenaires avec lesquels j'ai lancé des quantités plus importantes. J'ai commencé à faire les foires internationales. Donc, en une année, je faisais 4 à 5 foires, une fois à Hong Kong, une fois à Venise, une fois les plus connues en termes de joaillerie. Et je rencontrais des fournisseurs de pierres. Je me suis entourée. Donc, petit à petit, en fait, les rencontres se font et le réseau s'étoffe. Et voilà, l'oiseau fait son nid.
Alors, justement, c'est un nouveau monde que vous avez découvert. Vous avez aimé?
Oui. Ouais. J'ai plus que aimé. C'est ma passion, en fait. Donc, c'est ma passion parce que j'adore créer des bijoux, déjà. Parce que ma personnalité a toujours été liée à la création. Je m'épanouis dans ça. C'est pour ça que j'ai quitté un monde aussi épanouissant que Google, parce que j'avais besoin vraiment de créer de mes mains, d'être connectée à quelque chose de créatif. De deux, je suis fascinée par le process. Et j'adore le fait que de pouvoir vraiment m'intéresser à tous les aspects, c'est-à-dire de la création jusqu'à en réalité la commercialisation, la stratégie. Je suis derrière la marque, en fait. Je ne me qualifie pas forcément de créatrice de bijoux, mais de créatrice d'entreprise, parce que ça va bien au-delà de juste créer un bijou. C'est comment le positionner, comment faire vivre une marque, comment distribuer, comment recruter. C'est beaucoup plus large que ça.
Alors, moi, j'ai quand même une interrogation par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui avec d'autres marques. De joaillerie, des jeunes marques d'ailleurs. Pendant longtemps, en fait, on communiquait pas beaucoup autour. Les modèles étaient assez classiques. Et puis est arrivée cette nouvelle vague de jeunes créatrices et créateurs avec finalement presque des tendances régulièrement qui s'imposent à la consommatrice. Le bijou est assez banalisé puisqu'on va lancer une collection. Et puis, quelques semaines après, parce qu'il y a un événement marketing annuel, fin d'année, Saint-Valentin, etc., on va lancer une autre collection. Et puis après, va arriver l'été, on va lancer la collection des mariages, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a presque une ubérisation du bijou.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Alors, nous, on a été vraiment pionniers dans ce domaine, parce qu'avec le lancement, il y a déjà maintenant presque 9 ans, 9-10 ans, on a voulu changer deux choses. On a voulu changer la manière de consommer et d'aborder le bijou. Parce que pour nous, l'ambiance un peu guindée d'une boutique de joaillerie, etc., était dépassée. Que les femmes avaient envie d'être dans un environnement convivial, de pouvoir essayer autant qu'elles voulaient les bijoux, d'être à l'aise, en fait, dans un contexte d'achat qui les mettrait bien. C'est-à-dire l'ambiance feutrée des joailleries à l'ancienne, on le voulait dépasser. C'est pour ça que moi, quand j'ai lancé ça, je l'ai vraiment lancé avec une ambiance, avec un concept de vente privée. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, même si la marque existe depuis 10 ans, on maintient ça parce que vraiment, c'est le cœur de notre mode de fonctionnement qui fait qu'on a des relations très proches avec nos clients. C'est vraiment des moments d'échange qui sont importants. Donc d'abord, on a voulu changer la manière de consommer. Ensuite, on a voulu effectivement banaliser l'achat du bijou, parce que pour nous, ce n'est pas quelque chose qui doit être forcément un achat pour le placard ou un achat qu'on fait une fois par an et on l'a payé tellement cher qu'on va, ou une fois tous les je ne sais pas combien d'années, qu'on n'ose même pas le porter, etc. On a voulu changer en fait ce mode de fonctionnement. Et donc pour nous, et d'autres marques aussi ont suivi, parce que c'est un peu la tendance qui va au-delà du Maroc d'ailleurs, c'est la tendance internationale, c'est qu'on a commencé à voir des pop-up en réalité liés aux bijoux, des marques beaucoup plus flexibles, des marques qui proposent des choses régulièrement, parce que on a envie de changement, on a envie de bijoux beaucoup moins chers que ce qu'on voit dans les boutiques de joaillerie, de ce qu'on voyait dans les boutiques de joaillerie traditionnellement, parce qu'on a envie de profiter de ces bijoux, on a envie de les porter au quotidien, on envisage vraiment une joaillerie, une haute joaillerie plus accessible,
plus prête à porter en fait.
Exact, c'est vraiment du prêt-à-porter de luxe, parce que ce sont des choses, en réalité, on a vu une demande augmenter vers ça, parce que les gens ont envie de profiter de leurs bijoux et finalement se dire, on a payé ça pas trop cher et it's value for money, dans le sens où c'est quand même de l'or, c'est quand même des diamants, c'est quand même des pierres précieuses. Si vous voulez, la manière dont on présente les choses dans le monde de la joaillerie a suivi les habitudes de consommation qui ont évolué.
Et le business model, vous vous êtes inspiré de quoi exactement? Comment vous êtes dit ça peut marcher finalement pour le bijou, même si c'est un produit de luxe?
Écoutez, on a vraiment tenté ça au début, c'est-à-dire en organisant un petit événement qui a eu un succès incroyable. C'est-à-dire que c'était juste en essayant et bien sûr en observant la tendance internationale. C'est-à-dire que je me rappelle à l'époque avoir lu un article sur Tiffany qui avait lancé un concept de pop-up, en fait, comme des, vous savez, les petites...
Les petits stands.
Exactement, les petits stands qu'on voit, ils avaient lancé ça dans des couleurs pop sur la Fifth Avenue, et ça m'avait inspirée. Je me suis dit, tiens, mais Tiffany fait ça, ça doit être un concept qui doit probablement plaire, et donc je voulais essayer. Donc j'avais commencé en proposant une petite collection, je me rappelle que c'était une dizaine de bagues, c'est pas plus que ça. Chez moi, à la maison, on avait invité on avait utilisé notre réseau d'amis. J'avais sollicité mes sœurs à l'époque, quelques amis, en disant, voilà, venez voir, j'ai fait une petite collection, etc. Et le concept avait tellement plu. Les gens étaient tellement à l'aise que je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas en faire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un concept qu'on voit banalisé parce que tout le monde s'est lancé dans la vente privée. Beaucoup, beaucoup de personnes essayent de faire ça et d'adapter ça à leur business, mais on était vraiment pionniers dans le domaine. Mmh. Et on le maintient.
Ok, alors justement, le va-et-vient entre Dubaï et le Maroc, est-ce que c'est oui. évident en période de Covid ?
Écoutez, non, c'est pas évident, ben, comme pour tous les gens qui se déplacent. Maintenant, nous, ce qui est important, c'est que ça, j'ai vraiment une structure qui est autonome et plus tellement liée à moi en tant que telle. Je suis bien sûr la créatrice des modèles et des collections. Je suis au cœur de la marque. Mais mon équipe est formidable et porte vraiment la marque très très bien, que ce soit à Casa ou à Rabat ou dans les autres villes. Donc maintenant, on a un showroom à Casa qui est permanent, qui est porté par mon équipe de Casa. On a une boutique à Rabat qui ouvre d'ici la fin du mois, qui sera aussi portée par l'équipe de Rabat. Et on maintient notre présence partout. Donc moi, quand je peux et quand le contexte me le permet, je me déplace. Mais sinon, je m'occupe de la production et je suis de très les choses à l'atelier et mon équipe sur place s'occupe du reste.
Vous les gérez comme Google ?
Écoutez, on essaye. On essaye vraiment de garder un super état d'esprit. On est vraiment une grande famille.
Okay.
Je pense qu'on est très épanouis. Donc, il faudra leur demander quand même.
Alors, on va dire avec du recul. Est-ce que quand vous avez eu votre bac, quand vous êtes allé faire vos études, quand vous avez postulé pour votre premier job, est-ce qu'un jour vous vous imaginiez chef d'entreprise à la tête justement d'une marque qui s'étend, qui se fait connaître au Maroc, à Dubaï, qui ouvre différents magasins? Est-ce que vous aviez cette image de vous dans votre tête, un peu cachée?
Écoutez, elle n'a jamais été cachée, elle a toujours été très claire.
Oh, ouais, super.
J'ai toujours voulu faire ça et j'en ai toujours eu la vision. C'est pour ça que même quand j'étais installée confortablement chez Google, ça ne m'a pas dérangé de défier un peu les choses et de changer et d'y aller parce que j'y croyais vraiment. Et aujourd'hui, cette année, bon, je vous le révèle un peu en avant-première, mais d'ici 2 mois, je lance une nouvelle marque aux Émirats.
D'accord.
Toujours dans les bijoux. Cette fois-ci en association avec mon mari. Donc mon mari a fini par faire le même jump que moi il y a quelques mois. Il était banquier d'affaires depuis 13 ans. Et il a fini par quitter pour se lancer avec moi. Donc on lance une nouvelle marque de joaillerie avec un nouveau focus régional. Et cette fois-ci, ça va être une marque digitale à travers laquelle on va vendre au monde entier, pas uniquement au Maroc.
Et uniquement digitale.
Ça va être uniquement digital, oui.
Okay.
Ça va être uniquement digital. On verra comment ça va se développer. On aura peut-être des points de vente ici et là, mais, ouais. Mais voilà.
Et c'est évident pour les gens, justement, j'imagine que vous avez fait votre business plan. C'est évident pour les gens d'acheter du bijou, de l'or, les pierres.
Je vous dirai ça dans quelques mois.
Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est évident d'acheter à distance ? Voilà. Vous nous direz si ça marche.
Oui, on pense que oui. C'est encore une fois une tendance qu'on observe à l'international aujourd'hui parce qu'en fait, il suffit d'avoir un système derrière, de garantie, de pouvoir échanger, rendre, de donner, de certification, Donc si on rassure le consommateur dans la manière dont on présente les choses, en fait, nous, on se veut vraiment une nouvelle marque digitale.
Ouais.
Donc on va tout faire pour que tout fonctionne comme il faut, comme une marque digitale. Ce qu'on pense, c'est que souvent, les marques sont des marques pensées pour le offline et qui ensuite essaient de s'adapter online, mais ce n'est pas évident parce que c'est vraiment 2 business models différents. Donc, quand on est une marque online, on fait tout pour, c'est-à-dire on s'organise pour faire des vidéos très détaillées des bijoux initialement, on s'organise pour être très, très proche du consommateur pour lui montrer, pour répondre à toutes ses questions. Donc, l'expérience d'achat est complètement différente.
Différente. Mais en tout cas, Rita Schreiber, bravo et bonne continuation. Tenez-nous au courant pour la suite, justement, pour nous dire comment ça évolue.
Bien sûr, avec plaisir.
Merci infiniment. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.